Nous allons parler maintenant de la deuxième œuvre au programme pour les filières scientifiques. Gérard Jean-Jambre donc va nous parler de ce livre d'Henri Barbus. Je vais passer la parole directement à Gérard Jean-Jambre.
Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça ne vous dérange pas si je vais et je viens dans la salle. C'est mon côté péripatéticien.
C'est les caméramans.
Les philosophes comprendront.
C'est le cadreur qui va souffrir.
Voilà. C'est pas grave. Je vais essayer de pas trop bouger. Bon, alors, donc Jean Monteneau m'a demandé de venir vous parler du feu de Barbus, donc essayer de vous suggérer quelques pistes pour votre réflexion. Bon, je précise d'entrée de jeu que je ne suis pas spécialiste de la littérature du XXe siècle, mais du XIXe, mais peu importe, il se trouve que depuis quelque temps, je suis plongé dans la littérature de guerre pour d'autres activités de conférences. Et que je suis en train de lire à peu près tout ce qui est disponible de la littérature de la Première Guerre mondiale depuis 1914 jusqu'à aujourd'hui, ce qui représente plusieurs centaines de textes. Et j'y inclus les bandes dessinées. Si vous êtes amateur de bandes dessinées, vous savez peut-être qu'il y a un nombre très important de bandes dessinées remarquables qui prennent comme thème la Première Guerre mondiale depuis le milieu des années 70. Bon. Alors, le premier objet que je voudrais essayer de cerner avec vous, c'est le statut de ce texte. Vous voyez que j'essaye de délibérément d'éviter le terme de roman ou autre. On va essayer de réfléchir un peu sur le genre de cet ouvrage. Mais peut-être n'est-il pas mauvais de le resituer un peu dans le contexte de sa publication, en 1916, puisque vous le savez sans doute, il a obtenu le prix Goncourt. Ce qui semble immédiatement le désigner comme texte remarquable. Mais il faut bien comprendre dans quelles conditions ce prix Goncourt a été attribué. Et pour bien comprendre ce qu'il se passe autour des prix littéraires à l'occasion de la Première Guerre mondiale, il faut faire deux ou trois petits rappels. Il n'y a pas eu de prix Goncourt décerné en 1914, pour cause de guerre. En 1915... il y a un prix Goncourt qui est attribué à un roman de guerre qui s'intitule Gaspard de René Benjamin. Et ce Gaspard, si vous le comparez au Feu de Barbus, c'est un ouvrage complètement différent qui est une sorte de texte d'adhésion à la guerre. Du point de vue des soldats, d'un soldat fictif qui est le héros du roman, là pour le coup vous êtes vraiment dans un roman, et le livre de Gaspard, cet ouvrage Gaspard, c'est le prénom Gaspard, mais vous savez qu'en argot Gaspard c'est aussi le rat, ce texte semble correspondre à un horizon d'attente de l'époque où on veut que la littérature se mette à l'unisson de l'effort national, de ce qu'on appelle l'union sacrée. Ce n'est pas un ouvrage qui fait l'apologie de la guerre, ce n'est pas un ouvrage belliciste, mais c'est un roman qui prend le parti de la guerre de la France en disant il faut qu'on gagne cette guerre, etc., etc. En 1916, deux prix Goncourt vont être attribués. Le prix 1914, qui n'avait pas été attribué, est attribué a posteriori, mais pour un ouvrage qui est publié en 1916, qui s'intitule « L'appel du sol ». Qui est de Bertrand et Bertrand, qui est un ouvrage tout à fait extraordinaire, très spiritualiste, dans une sorte, si vous voulez, d'idéalisation de la patrie. Appel du sol, ça a des accents barésiens, de Maurice Barrès, à la célébration du sol, du patriotisme. Et, deuxième prix Goncourt, cette fois pour l'année 1916, attribué à Barbus. Autrement dit, la même année, vous avez deux prix Goncourt qui sont donnés à des ouvrages de tonalités radicalement différentes, de perspectives radicalement différentes, et je dirais de rapports à la guerre radicalement différents. Ce qui montre bien qu'à partir de 1916, ce que la littérature est en train de faire de la guerre, c'est-à-dire comment la littérature est en train de traiter le thème de la guerre, devient quelque chose de tout à fait divers, allant dans des directions très différentes. En revanche, en 1917, le prix Goncourt sera attribué à un ouvrage d'Henri Malherbe qui s'intitule « La flamme au poing ». Alors, ce sont des ouvrages qui sont complètement oubliés aujourd'hui, hein. Et « La flamme au poing » reprend, si vous voulez, un peu la tonalité que vous aviez dans « L'appel du sol » et que vous aviez dans « Gaspard ». Donc, fin provisoire pour ce qui est des prix littéraires de ce qu'on peut appeler la parenthèse Barbus. Mais peut-être, et on y reviendra tout à l'heure, peut-être ce prix Goncourt attribué à Barbus ne l'est pas nécessairement pour récompenser un ouvrage dont on lit immédiatement que ce serait un ouvrage contre la guerre. On reviendra sur cette ambiguïté idéologique que vous avez dans Le feu de Barbus. Deuxième point à propos de cette question du statut de l'ouvrage d'Henri Barbus. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un témoignage ? Est-ce que c'est un récit ? Est-ce que c'est une fiction ? Écartons pour l'instant ces trois termes et regardons la manière dont il est composé. Vous l'avez constaté, c'est une succession de chapitres qui semblent rassembler à l'intérieur du même texte l'ensemble de l'expérience que le poilu a sur le front. La vie des tranchées, le combat, le repos, l'arrière, la permission, etc., etc. Autrement dit, ce texte ressemble à un genre littéraire bien établi depuis le XIXe siècle qu'on appelle la chronique. C'est la chronique d'une escouade. L'escouade, c'est une petite formation militaire. Et, comme vous le savez, le feu est sous-titré « Journal d'une escouade ». Alors, si je dis que c'est un genre bien établi depuis le XIXe siècle, c'est parce que vous connaissez comme moi au moins un grand roman du XIXe siècle qui est sous-titré « Chronique ». Je vous écoute. Je vous mets sur la voie. Le sous-titre, c'est « Chronique du XIXe siècle ». Je vous remets sur la voie. La lettre initiale de l'auteur, c'est « S ». C'est le Rouge et Noir de Stendhal. Le Rouge et Noir de Stendhal est sous-titré « Chronique du XIXe siècle », alors que c'est un roman. C'est-à-dire que le statut du mot « chronique » au XIXe siècle est un statut double. Il désigne à la fois un genre de récit historique qui est organisé chronologiquement, donc on raconte des événements dans l'ordre de leur apparition, mais les auteurs de littérature vont emprunter ce terme au domaine de l'histoire pour en faire d'un côté, pour servir d'un côté à désigner un genre qui est extrêmement florissant dans les années 1820, qui est le roman historique. Et vous avez un exemple tout à fait flagrant de cela, c'est un roman historique de Prosper Mérimée qui s'intitule « Chronique du règne de Charles IX ». Publié au milieu des années 1820. Et une autre direction, c'est celle qui est utilisée par Stendhal, c'est-à-dire de faire effectivement un roman, mais de lui donner une sorte de valorisation historique en le sous-titrant chronique. Et en disant que tout cela, bien sûr, c'est de la fiction, les personnages sont inventés, les intrigues dans lesquelles ils se trouvent sont des intrigues imaginaires, mais c'est une manière de rendre compte de ce qu'il en est du XIXe siècle. Avec un paradoxe intéressant, c'est qu'écrire une chronique du XIXe siècle dans un roman qui paraît en 1830, c'est-à-dire que le siècle il a encore 70 ans devant lui, paraît peut-être un petit peu osé. Mais ça se corrige avec le titre de la première partie du Rouge et Noir, qui est Chronique de 1830. Bien. Donc, le feu de Barbus ne se désigne pas lui-même comme étant une chronique, mais se structure comme la chronique synthétique de la vie d'une escouade dans tous les aspects de la Première Guerre mondiale. On serait donc en présence d'un texte qui serait la relation chronologique, mais en même temps en ciblant un certain nombre de situations types de la vie d'une escouade pendant l'année 1915, puisque l'ouvrage est écrit en 1915 et tout début 1916. Hein. Il est daté décembre 1915 à la fin du roman, mais ça, la date est un petit peu fictive, étant donné que l'écriture du roman se prolonge également en 1916. C'est-à-dire qu'on serait en présence d'un type de texte que la critique littéraire allemande, lorsqu'elle va étudier les romans de guerre, hein, parce qu'évidemment le roman de guerre n'est pas qu'un genre français, hein, les Allemands, les Anglais, les Américains, les Italiens, les Croates, les Serbes, les Polonais, les Russes ont écrit des romans de guerre. Hein. Et les Allemands appellent ça la Kriegserlebnis. Kriegserlebnis, c'est-à-dire l'expérience de guerre. Ce qui devient l'objet même du roman de guerre. Comment transcrire la Kriegserlebnis ? Ce qui pose évidemment le problème de l'écriture. Comment peut-on écrire la guerre ? Donc voilà, premier sujet de réflexion. Mais en même temps, ce qui se présente comme la chronique exemplaire de la vie d'une escouade est constitué de personnages fictifs. Personnages fictifs qui vont représenter chacun à sa manière un positionnement devant la guerre, une expérience singulière et en même temps collective de la guerre, un type de discours, etc. Autrement dit, vous êtes devant ce qu'on pourrait appeler une escouade type, qui synthétise X groupements de soldats de cet acabit. Autrement dit, vous êtes dans une fiction, mais qui se présente comme étant la relation de cette expérience de guerre. Mais ce qui vient perturber cette qualification générique, c'est que dans le texte, vous allez avoir un certain nombre de passages, de développements, qui sont, eux, beaucoup plus marqués idéologiquement, qui sont un commentaire sur la guerre, qui va être présenté doublement venant des soldats eux-mêmes. Et vous remarquerez en lisant attentivement le livre que tout se passe comme si vous aviez une, je mets des guillemets, prise de conscience progressive de la part d'un certain nombre des soldats de cette escouade de ce que c'est que la guerre, de ce qu'elle veut dire historiquement. Mais tantôt, ce commentaire est attribué à celui qui écrit, qui est lui-même présenté dans le texte comme celui qui tient cette fameuse chronique. À un moment donné, il y a un soldat qui lui dit « T'es en train d'écrire ce qu'on est en train de vivre. Mais tu sais, personne ne te croira. Parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas croyable. Hein » Donc, vous voyez, vous avez comme ça des stratégies d'écriture qui viennent confondre, mêler, entremêler la chronique, le récit, le roman, et ce qu'on pourrait appeler le témoignage orienté. Donc un ouvrage hybride. Alors qu'à la même époque, et dans les années 1920, hein, parce que la plus grande production de romans de guerre, ça va vraiment être à partir des années 1919-1920, avec des ouvrages dont je pense vous connaissez quelques titres, Les Croix de Bois de Roland Dorgelès du côté français, La Peur de Gabriel Chevalier du côté français, hein, aussi un roman que je vous recommande, hein, il est en poche, c'est de mon point de vue un des tout meilleurs romans de guerre, Il n'a pas le statut dans la mémoire littéraire des Croix de Bois de Dorgelès ou du Feu de Barbus, mais je vous assure qu'il est remarquable. Du côté allemand, vous allez avoir à l'ouest Rien de Nouveau, d'Éric Maria Remarque. Vous allez avoir Orage d'Acier de Junger. Vous allez avoir Guerre de Ludwig Renn, là encore un roman allemand peu connu, mais vraiment remarquable, qui est un roman anti-guerre, explicitement anti-guerre. Ludwig Renn, c'est R-E-2-N. Et vous le trouvez sous deux formes. Vous le trouvez avec son titre allemand conservé, Krieg, entre parenthèses, la guerre, ou guerre, tout court. Bon, je pourrais citer comme ça beaucoup de titres. Alors, la plus grande partie de ces romans de guerre des années 20 jouent, eux, délibérément la carte de la fiction, du roman. Et n'ont pas recours à cette stratégie de Barbus de combiner la chronique, le récit, les souvenirs ou l'intervention explicitement idéologique de tel ou tel des protagonistes ou de celui qui se présente comme étant le porte-parole ou l'auteur dans le texte. Alors à cette ambiguïté générique va répondre une ambiguïté idéologique que vous avez peut-être repérée dans le texte et qui légitime des lectures contradictoires du feu. Pour aller très vite, vous allez avoir ceux qui vont lire dans le feu un ouvrage qui prend parti contre la guerre, un ouvrage qui prône le pacifisme, vous allez avoir ceux qui, lors de la parution du roman, vont dire « mais c'est un ouvrage qui fait le travail des Allemands ». La critique dans l'Action française en particulier va vitupérer le feu en disant « cet ouvrage est au fond un ouvrage de propagande pro-allemand ». Pourquoi ? Parce qu'il ne dit pas que les Allemands sont d'abominables salauds et que les Français sont des héros. Puisqu'il est, effectivement, dans le roman, il met tout à fait sur le même plan l'expérience de guerre des Français et la Kriegserlebnisse des Allemands. Ils sont littéralement dans le même bourbier. Ils sont dans le même chaos. Et ça, vous le percevez, vous le voyez de manière très très nette dans le dernier chapitre, le grand chapitre du déluge, où tout le monde est noyé dans la boue, et où les soldats, qui sont devenus de véritables petits monticules de boue, ils n'arrivent plus à se détacher de la boue tellement leurs vêtements, leurs capotes sont alourdis par la boue. Ils sont littéralement dans la glèbe et ils s'interpellent les uns les autres, ils dialoguent et ils vont dialoguer avec des Allemands qui sont exactement dans la même situation, dans une même plaine devenue totalement uniforme. Et vous voyez évidemment que j'ai parlé de déluge, la référence biblique est évidente. C'est sur ce déluge, sur cette immense catastrophe que se termine le roman. Donc vous avez ces deux tendances et vous avez la troisième tendance qui va consister à dire mais non, pas du tout, Henri Barbus, en présentant de cette manière véridique l'expérience des soldats et en montrant que malgré tout ce qu'ils subissent, eh bien ils continuent à se battre. Qu'aucun n'envisage de déserter. Qu'ils y retournent à chaque fois, eh bien, c'est un roman qui participe de l'esprit de l'Union sacrée. Certes, en 1916, on n'est plus dans les accents de 1914, la guerre fraîche et joyeuse. Tout le monde part à l'assaut en chantant. Le problème, c'est qu'en face, il y a des mitrailleuses, il y a des canons. Donc, cet enthousiasme guerrier de 14 n'est plus de mise. Mais si la guerre est présentée sous un jour beaucoup plus, je mets des guillemets, réaliste, bien entendu, l'esprit combattant, l'esprit de résistance est toujours là. Et donc on a effectivement des éléments dans le texte qui peuvent conforter les deux positions contradictoires. Est-ce que c'est un texte favorable à l'Union sacrée ? Est-ce que c'est un texte qui est pacifiste. Alors là, il faut se souvenir que Barbus est un engagé volontaire, d'une part, qu'il est engagé politiquement à gauche au début de la guerre, mais qu'il déclare que être contre la guerre, c'est y participer. Bien comprendre ce qu'il veut dire. Dénoncer la guerre ne peut se faire que de l'intérieur. Dénoncer la guerre ne peut être le fait que de ceux qui y sont vraiment. Ceux qui la dénoncent de l'extérieur sans y participer, au fond, n'ont pas plus de légitimité que ceux qui encouragent à la guerre sans y aller eux-mêmes. Et deuxième élément, Barbus pense que la responsabilité de la guerre incombe d'abord au militarisme allemand. Et qu'il faut donc vaincre le militarisme allemand pour qu'il y ait l'espoir de la paix. Pour que cette guerre soit, bah, comme vous le savez, hein, cette expression consacrée, soit la der des der, hein, la dernière des dernières. Mais pour ça, il y a quelque chose à vaincre. Donc le pacifisme de Barbus est réel, mais ce pacifisme, ce n'est pas un pacifisme de refus de la guerre. Hein, vous n'êtes pas ici sur le même terrain, sur le même positionnement que par exemple celui de Giono dans Le Grand Troupeau, hein, roman des années 1930. Dès lors, le discours des soldats, ou le discours attribué aux soldats de l'escouade, est un discours dans lequel, d'un côté, on vitupère les conditions de la guerre, où on dit finalement « ils veulent notre peau », c'est une phrase récurrente, hein, « ils veulent notre peau », mais où on ne se dresse pas contre la guerre. D'ailleurs, même y compris au moment des mutineries de 1917, hein, suite à l'épisode sanglant du Chemin des Dames, les soldats qui refusent d'attaquer n'ont jamais dit qu'ils désertaient, n'ont jamais dit qu'ils allaient rentrer chez eux. Hein, ils disent « nous ne voulons plus attaquer dans ces conditions-là ». Les mutineries, c'est le refus d'attaquer d'une manière absolument aberrante et de se retrouver massacré parce que en face, eh bien, rien n'a été détruit. Il y a toujours les postes de mitrailleuses, il y a toujours l'artillerie, etc. Bien. Donc, vous voyez, l'ambiguïté idéologique tient à ce positionnement très particulier qui peut nous sembler aujourd'hui peut-être difficilement compréhensible, mais qu'il faut replacer dans le contexte de l'époque. Et si vous ne comprenez pas le contexte de l'époque, vous passez à côté d'un certain nombre de significations du livre de Barbus. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de le lire autrement, mais il faut d'abord le lire tel qu'il est conçu et tel qu'il est orienté par Barbus lui-même. Alors, petite parenthèse, à la fin des années 80, dans les milieux de la critique marxiste, il y a eu une polémique qui a été relancée à partir de l'ancienne Allemagne de l'Est, où un critique marxiste qui s'appelle Jörg Müller, dans un colloque portant sur réalité, fiction, réalisme, c'est un colloque en allemand, hein, de juin 88, fait une communication sur le feu de Barbus qui s'intitule La vision du caporal Bertrand, alors donc je n'ai pas encore parlé, c'est l'occasion de parler, hein, je parle de Bertrand via cette polémique, ou plaidoyer pour une lecture historique du feu de Henri Barbus, dans lequel ce critique allemand dit que le feu de Barbus n'est pas du tout un ouvrage qui annonce ou qui anticipe sur la révolution socialiste, comme on a essayé de le présenter, en s'appuyant sur le discours du caporal Bertrand, lequel est le personnage le plus extraordinaire de l'escouade. Il est le chef de l'escouade, il est très très proche de ses hommes, il est, j'y reviendrai tout à l'heure, le seul qui ne parle pas argot, et qui, dans une conversation avec le narrateur, évoque l'avenir radieux et dit « il y a de l'autre côté, donc en Allemagne, il y a la lumière de Liebknecht, de Karl Liebknecht, qui était un des chefs du Parti socialiste allemand. Comme vous le savez, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg seront victimes d'un double assassinat politique en 1919 en Allemagne, lors de l'échec, à la suite de l'échec de la révolution spartakiste à Berlin. Bien. Donc effectivement, le mouvement communiste auquel Barbus a adhéré a fait de Barbus un écrivain militant du communisme. Et on a présenté Le Feu comme un ouvrage qui annonçait, d'une certaine façon, la révolution bolchevique. Donc, en 88, ce critique allemand dit « c'est pas vrai ». C'est pas vrai parce que, en réalité, et là, il revient sur la position de ceux qui disaient « Le Feu de Barbus est un ouvrage qui est conforme à l'esprit de l'Union sacrée », l'ouvrage de Barbus ne prône pas la révolution, mais prône l'Union sacrée, et le discours du caporal Bertrand est en fait un discours de pure convention à l'intérieur du roman, qui n'a aucune incidence sur l'idéologie même du roman. En d'autres termes, il y a une logique de cette fiction qui va dans le sens de l'Union sacrée, et on traduit une des formules assassines de Müller à propos du feu de Henri Barbus, en disant « c'est un discours social patriotard ». D'où polémique de retour en France, où un certain nombre des critiques français vont dire « mais non, ça, on ne peut pas dire ça du feu de Henri Barbus ». En fait, à la fin des années 80, vous avez une sorte de résurgence de la polémique qui a pris naissance à partir de 1916, qui s'est poursuivie pendant plusieurs années. Alors, il faut replacer cette polémique dans un cadre plus large. Bon, sur le plan anecdotique, c'est lié au fait que la critique marxiste est-allemande à la fin des années 80 est dans une position de réaffirmation doctrinale pour des raisons, je dirais, de politique internationaliste dans son rapport avec ce qui est en train de se passer du côté de l'Union soviétique, où l'Union soviétique est en train de renoncer au marxisme avec Gorbatchev, etc. Alors, du côté de la main de l'Est, vous avez les purs et durs qui disent il faut qu'on maintienne haut la flamme du marxisme-léninisme et qui, dans le domaine littéraire, vont se livrer comme ça à un certain nombre de révisions de style marxiste-stalinien. Bon, je ferme la parenthèse. Beaucoup plus intéressant, c'est que dans les années 1920, vous avez une grande polémique littéraire en France autour de littérature prolétarienne, littérature populiste, littérature communiste. Qu'est-ce à dire? Au moment du congrès de Tours, de la séparation entre les minoritaires communistes et les majoritaires socialistes, tout un ensemble d'intellectuels, parmi lesquels des écrivains, vont se positionner sur ce champ politique des divisions du marxisme et vont poser la question: quel type de littérature faut-il aujourd'hui dans la perspective d'une révolution communiste? C'est-à-dire que mutatis mutandis, vous retrouvez très exactement les problématiques de la littérature après la Révolution française. Quel type de littérature aujourd'hui? Maintenant qu'il y a eu la Révolution française, comment est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous avez trois tendances. Je résume. Vous avez ceux qui vont essayer de définir une littérature prolétarienne. Alors, littérature prolétarienne, qu'est-ce que ça veut dire? On prend des sujets, la vie du prolétariat, on prend comme héros de roman des prolétaires, l'ouvrier d'usine, l'ouvrier des mines, etc. On les montre tels qu'ils sont dans la vie quotidienne. En d'autres termes, on impose une image du prolétariat dans la littérature. Contre la littérature prolétarienne. Les écrivains qui veulent une littérature communiste. Alors vous me direz quelle est la différence. Vous allez la voir. Ceux qui veulent une littérature communiste vont dire non, non, il ne faut pas représenter d'une manière platement réaliste l'ouvrier tel qu'il est. Il faut représenter l'ouvrier en devenir, l'ouvrier qui a une perspective, l'ouvrier qui s'éveille à la conscience de classe. Il faut faire un roman militant. Donc, sortez de la platitude réaliste de la littérature prolétarienne et faites de la littérature engagée communiste. Vous avez exactement les mêmes débats en Union soviétique dans les années 20 avec ce qu'on va appeler le Proletkult, hein, c'est-à-dire la culture prolétarienne et tous les débats autour de l'art et de la littérature. Hein. Et le Proletkult va être vaincu. Hein. Il va être vaincu en particulier lorsque Staline va véritablement prendre le pouvoir et va imposer la littérature du réalisme socialiste, qui sera la nouvelle appellation de ce que les auteurs de la littérature communiste prônaient au début des années 20. Troisième tendance, la littérature populiste. Alors la littérature populiste, elle, elle a un certain nombre d'antécédents. C'est celle qui est le plus directement liée au naturalisme. La littérature populiste, c'est le dernier avatar de la littérature naturaliste, type Émile Zola, si vous voulez. Alors, quelle est la différence entre le naturalisme et le populisme? C'est que dans le populisme, on va faire parler les personnages qui sont, comme dans la littérature prolétarienne, empruntés au peuple. On va les faire parler peuple. Et c'est là que vous retrouvez le feu de Barbus. Puisque, à l'exception du caporal Bertrand, qui est dans l'escouade, ce qu'on pourrait, avec le narrateur, ce qu'on pourrait appeler la figure de l'intellectuel, tous les soldats de l'escouade parlent une forme d'argot. C'est-à-dire qu'ils parlent à la manière des personnages de la littérature populiste naissante et qui va s'affirmer dans les années 1820. Autour d'un certain nombre d'auteurs, dont le plus important est Henri Poulaille. Henri avec un Y, hein, Poulaille comme la poulaille, qui va écrire un roman de guerre tout à fait intéressant qui s'intitule « Pain de soldats ». Donc je vous recommande la lecture. Et qui vous donne une bonne idée de ce que c'est que la littérature, le roman populiste de guerre. Alors le problème, et là on se heurte à un problème majeur, c'est que cette langue des soldats de l'escouade est une langue inventée. Je m'explique. Lorsque vous lisez tous les témoignages, pour le coup, tous les récits faits par les combattants de la guerre, dans leurs carnets, dans leurs journaux, dans les textes, dans les pages de souvenirs qu'ils ont pu écrire, souvent d'ailleurs sans intention de publication. Vous avez la transcription du type de langage que les soldats utilisaient entre eux, qui n'a que très peu à voir avec le langage des personnages du feu de Barbus. Pour deux raisons. La première, c'est que dans les tranchées, on parlait beaucoup plus les différents patois et dialectes qui se parlaient dans toute la France. La France, en 1914, est un pays où beaucoup de gens, dans les différentes provinces, parlent encore la langue de la province. Et beaucoup d'entre eux parlent de manière assez approximative le français. Alors vous en avez un seul exemple de ça, là qui est un peu plus, si j'ose dire, réel, c'est le personnage de Bécuve, hein, qui parle en ch'timi. Et c'est un ch'timi assez correct, je le sais, hein, je suis originaire du Pas-de-Calais et ma langue maternelle c'est le ch'ti, donc je peux vous en causer. Je peux faire la suite de la conférence en ch'ti, mais vous aurez du mal à comprendre. Donc ce personnage de Bécuve, oui, il parle à peu près comme un ch'ti de l'époque pouvait parler. Mais en revanche, vous avez un autre personnage de ch'ti qui est Poterlo, et vous apercevez qu'il parle absolument pas, il parle absolument pas ch'ti. Il parle en réalité français. Mais tous les autres parlent une langue qui est une langue littéraire. Alors certes, c'est de l'argot, mais c'est une réinvention littéraire de l'argot. On parlait très peu l'argot dans les tranchées, sauf dans les régiments qui étaient composés uniquement de Parisiens, de Parigots, là qui pouvaient parler effectivement l'argot de Paris. Mais cette escouade, comme vous le savez, elle est composée de gens qui viennent de régions très différentes de France. Et le problème, c'est qu'ils parlent tous, le même argot. Bon, ça, c'est absolument impossible. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui fait qu'il faut lire dans cet argot une langue littéraire et non pas la langue vraie des tranchées, c'est que il y a eu des études linguistiques et lexicographiques qui ont été faites sur le langage des poilus. Quels ont été les mots qui ont été inventés par les poilus pendant la guerre et dont un certain nombre sont passés dans la langue après coup. Ou comment est-ce que les poilus ont retrouvé, récupéré un certain nombre de termes d'argot militaire plus anciens et leur ont donné soit des significations différentes ou complémentaires, soit en ont fait un usage beaucoup plus important. Bon, vous avez je vous donne un exemple entre des dizaines, le mot barda, hein, à prendre le barda, c'est-à-dire le sac hein, qu'on a sur les épaules, hein, qui était très lourd, hein, ça pouvait peser entre 30 et 40 kilos, hein, le sac complet des soldats de 14. Hein, alors vous imaginez faire des marches de 30 à 40 kilomètres avec un sac de 30 à 40 kilos sur le dos, voire dans certains cas partir à l'assaut en courant contre les tranchées allemandes avec le sac de 30 kilos dans le dos. Hein. Surtout ajouter à ça que le fusil Lebel pesait environ 5 kilos. Hein. Bon, petit détail réaliste, mais qui permet de comprendre un peu ce qu'a été l'épreuve physique quotidienne hein, de la guerre, même sans parler d'être constamment sous le feu de l'artillerie, etc. Hein. Bon. Alors le mot barda, ça veut dire ça. Alors c'est un mot qui vient, qui est une sorte de transcription française d'un mot arabe, et ça date de quand ? Ben, ça date tout simplement de la conquête de l'Algérie au 19e. Alors pourquoi je parle de barda ? Ben, parce que vous connaissez bien sûr Le Voyage au bout de la nuit, de Céline, dont tout le début est peut-être le roman de guerre le plus explosif de l'histoire du roman de guerre, hein, parce que ça détruit absolument tous les mythes héroïques possibles et imaginables. Ben, le héros s'appelle Bardamu, c'est-à-dire celui qui est, d'une certaine façon, mu, porté par le barda. Hein, si Céline invente le nom de Bardamu pour son personnage, c'est évidemment un clin d'œil à cet argot militaire repris et magnifié par les poilus de 14. Bon. Troisième raison qui fait que la langue est une langue imaginaire, c'est que, et ça c'est l'intention de l'intention de Barbus, c'est effectivement de donner à son roman une tonalité linguistique particulière, c'est-à-dire de constituer une communauté imaginaire des soldats par la langue commune. Puisque dans la Kriegserlebnis, dans l'expérience de guerre, l'un des facteurs les plus importants, c'est le sentiment d'appartenance à un groupe solidaire. Et l'un des moyens par lesquels s'affirme et s'exprime la solidarité du groupe, c'est la langue commune. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que les soldats parlaient comme ça ou pas. Non. Ce qui compte, c'est que dans le roman, ils parlent comme ça. Hein ? Ils parlent une langue fictive, mais qui vaut, si vous voulez, comme ciment entre les membres de l'escouade. À tel point, évidemment, que à chaque fois que les membres de l'escouade vont se trouver en compagnie de soldats qui viennent d'autres régiments, etc., la communauté de langue existe. Dans les autres régiments, on parle le même argot. Ce qui, encore une fois, ne correspond nullement à la réalité. Alors, il y a des études linguistiques qui ont été faites, hein, mais avant même que ces études soient faites, dans un ouvrage qui s'appelle « Témoins » au pluriel, de Jean Norton Cru, et là, c'est un nom assez extraordinaire, mais c'est son vrai nom, hein. Premier prénom Jean, deuxième prénom Norton, N-O-R-T-O-N, et son nom c'est Cru. Hein. Jean Norton Cru va répertorier entre 250 et 300 ouvrages de récits, souvenirs, témoignages et romans de la Première Guerre mondiale. Il fait ça à la fin des années 20, début des années 30, j'ai oublié la date exacte, peu importe, mais enfin vous le trouverez facilement. Et il attaque le feu de Barbus, en disant, je traduis, il raconte n'importe quoi. Entendez par là que jamais les poilus n'ont parlé comme ça. Hein? Et le principe de Norton Cru, c'est est-ce que les textes que je lis, que j'analyse et que je critique, est-ce qu'ils donnent une idée exacte ou pas de ce qu'a été l'expérience de guerre? Et il est extrêmement critique à l'égard de la très grande majorité de ces textes, de récits, souvenirs, témoignages et romans. Bon, alors on peut critiquer ce principe, parce qu'évidemment, qu'est-ce que Norton Cru ne veut pas comprendre? Il ne veut pas comprendre la transfiguration par la fiction. Hein? Lui, il fait une lecture, si j'ose dire, myope. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Hein, il va même jusqu'à dire, vous savez peut-être à un moment donné, vous avez un épisode absolument atroce, vous avez la description d'un cadavre dont tout le sang s'est évacué et ça fait une coulée d'une cinquantaine de mètres dans la tranchée. Vision d'horreur. Jean Norton Cru dit, c'est pas vrai. Ça n'est pas possible. Hein. Lorsque les corps étaient à ce point déchiqueté, etc. Oui, il y avait du sang, mais ça ne pouvait pas faire cette espèce de fleuve de sang qu'on a dans la tranchée. Ce qu'il ne veut pas comprendre, c'est que vous avez évidemment la survalorisation littéraire. Hein, pour donner au lecteur cet effet, cette visualisation de l'horreur. Bon, hein, donc, il ne faut pas prendre Norton Cru comme un critique littéraire. Mais en revanche, à chaque fois qu'il dit sur tel ou tel détail, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut le croire, en n'oubliant pas, évidemment, que le romancier, il est parfaitement libre de faire ce qu'il veut. Hein? Il a le droit d'imaginer, il a le droit de transfigurer, il a le droit de mythifier. À partir du moment où l'objectif du roman, c'est de donner au lecteur une sorte d'image de ce que fut la guerre. Hein? Alors, je vous lis ce que Norton Cru a dit à propos de cela. Alors, vous trouverez cela dans cet ouvrage de Christophe Prochasson, hein, P-R-O-C-H-A-2-S-O-N, 14-18, retour d'expérience, au pluriel, retour d'expérience, dans la collection Texto. Ça a été publié en 2008. Et vous avez un chapitre qui s'intitule « La langue du feu ». Alors, pas le feu de Barbus, la langue du feu, c'est-à-dire quelle est la langue qu'on peut utiliser, quelle est la langue qui était utilisée par les poilus. Science et expérience linguistique. Alors je vous lis ce que dit Norton Cru à propos du feu de Barbus. On dit parfois en avant, tout court, jamais marche, tout court. Mais il y a d'autres traits qui appartiennent en propre à Barbus. L'un des plus connus est l'argot ordurier du feu. J'ai eu la curiosité d'y collectionner toutes les variantes du pot de, face de, tête de, etc. Effectivement, il y a une invention argotique qui est extraordinaire, hein, qui est souvent comique, hein, d'une grande efficacité. Cet exercice convainc vite le lecteur de l'artificiel qu'a un tel étalage. Barbus a visiblement noté sur un carnet toutes ces diverses formes qu'un farceur lui a fait prendre pour de l'argot en usage, puis il les a entassées dans son roman, attribuant à deux ou trois soldats les gros mots cueillis sur les lèvres d'un très grand nombre d'individus. En réalité, on parlait peu l'argot au front, les patois y tinrent une place plus grande. En général, on parlait simplement français, un français mêlé d'un peu d'argot de caserne, d'argot colonial, adapté et un peu augmenté pour les besoins de la guerre. Seul le parigot gros bec, parisien, pratiquait un argot plus riche. Encore le faisait-il un peu exprès pour jouer son rôle et amuser la galerie des provinciaux. Bien. Donc, que dit Norton Cru? Ce roman, pour ce qui est de la langue des soldats, est une supercherie. Hein? Donc, bien comprendre que vous avez en réalité ici un véritable exercice littéraire de mise en texte d'une langue supposée des poilus, je ne dirais pas analogue à, mais qui annonce d'une certaine façon ce que sera la langue de Céline dans Le Voyage au bout de la nuit, hein, qui est peut-être une des plus grandes inventions linguistiques de la littérature du XXe siècle. Hein, ce mélange de français oralisé et de français écrit que jamais personne n'a parlé, mais qui a une puissance d'évocation littéraire tout à fait unique. Hein, genre, je voulais vraiment insister là-dessus. Hein. Alors revenons à notre idée de départ du genre, de cette fiction chronique de la vie d'une escouade. Et que voit-on ? C'est que la ligne directrice du texte de Barbus est une ligne double, me semble-t-il. Première ligne directrice, c'est les morts successives du plus grand nombre des soldats de l'escouade. À la fin, il en reste très peu. Hein, au fur et à mesure des attaques, des bombardements. Donc l'escouade du départ s'effiloche tragiquement. Cet amenuisement numérique qui, évidemment, à l'échelle de l'escouade, transcrit le chiffre effroyable des pertes de la Première Guerre mondiale. Hein, je pense que vous avez une idée de ce qu'ont été les pertes de la Première Guerre mondiale. Hein. Pour la France, il y a 8 millions de mobilisés, il y a 1 400 000 morts, il y a 4 millions de blessés. Ce n'est pas la France qui a eu le plus de pertes. Le pays qui a eu le plus de pertes proportionnellement à sa population, c'est la Serbie. Les pertes serbes ont été apocalyptiques. Hein bon. Donc, le fil de l'intrigue, en quelque sorte, montre cette... on utilise le terme maintenant en français, même qui vient de l'anglais, ce qu'on appelle l'attrition, hein, l'attrition d'un groupe humain. Le deuxième fil directeur, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure, celui qui aboutit à la vision finale, ce dialogue dans le déluge, dans cette espèce de fraternité d'armes qui regroupe dans la même dénonciation de l'horreur de la guerre, français et allemand, sans pour autant apporter quelque message que ce soit de « il faut mettre fin à cette guerre maintenant, ça ne peut plus continuer comme ça hein ». Bon. Mais vous avez un autre principe structurant, qui est celui de la... je dirais presque la collection des différents moments de la vie du soldat. Comment vit-on dans la tranchée? Comment vit-on à l'arrière? Comment vit-on en permission? Etc., etc. En d'autres termes, c'est une sorte de condensé de la vie quotidienne du poilu. Et dans ce condensé de la vie quotidienne du poilu, qui donc semble parfaitement justifier le sous-titre journal d'une escouade, ce que vous allez avoir en même temps, c'est à peu près l'ensemble de tous les thèmes que vous retrouverez dans la quasi-totalité des romans de guerre. Alors, énumérons, pas tous, hein. La mutilation des corps. La destruction des paysages. Autrement dit, ces deux thèmes-là ont un point commun. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de forme, il n'y a plus d'intégrité. Le corps humain se trouve réduit à des... Je reprends une expression que vous avez dans Le Voyage au bout de la nuit, hein, à de la viande qui saigne et à des tripes. Vous avez des descriptions insoutenables, hein, de morceaux d'intestin qui pendent aux arbres, etc. Autrement dit, montrer quel est l'effet, et c'est une des raisons pour lesquelles Barbus a choisi le feu comme titre, de ce qu'on appelle le feu. Qu'est-ce qu'on appelle le feu en langage militaire, hein? Le feu, c'est les fusils, les mitrailleuses, les canons, et la révélation absolument extraordinaire à laquelle personne ne pensait en 1914, en tout cas dans les hauts cercles de l'état-major français, cette révélation, elle porte un nom. Le feu tue. Comme ça, on ne l'avait pas imaginé. Là, vous lancez des lignes de fantassins contre des mitrailleuses, c'est assez curieux, mais ça les tue. Donc, l'idée que le feu tue se trouve graphiquement montrée dans le livre. Quel est l'effet d'une balle de mitrailleuse? Quel est l'effet d'un obus? Donc ça, et vous allez retrouver ça dans toute la littérature de guerre. Et là, je fais un petit arrêt sur image, si j'ose dire. Pour comparer le feu et toute la littérature de la Première Guerre mondiale à la littérature de guerre antérieure. Parce que vous trouverez parfois dans tel ouvrage critique que le feu, les romans de la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose de radicalement nouveau dans l'histoire de la littérature. C'est vrai et c'est faux. C'est faux parce que vous avez bien entendu, et je ne vais citer que le 19e, parce que c'est ce que je connais un petit peu moins mal, au 19e siècle, vous avez pas mal de textes littéraires qui évoquent, qui racontent, qui mettent en scène des combats, des batailles. Vous pouvez m'en citer quelques exemples, je vous écoute. Pardon ? Guerre et paix, très bien, de Tolstoï. D'autres titres ? Les Misérables, avec la bataille de Waterloo. D'autres titres ? Le roman dans lequel il y a un certain Fabrice à Waterloo. La Chartreuse de Parme, de Stendhal. Plus près de la fin du siècle, un roman de Zola, La débâcle, hein, qui met en scène la guerre de 70. Donc, il existe des romans, soit qu'on peut appeler pour le coup des romans de guerre, c'est le cas de La débâcle, soit des romans dans lesquels la description de la guerre tient une place plus ou moins importante. Mais toutes ces guerres, depuis les guerres napoléoniennes, jusqu'à la guerre de 70, sont des guerres qui ne présentent pas le même caractère meurtrier que la guerre de 14-18. Parce que le matériel utilisé est complètement différent. Alors vous me direz, un soldat transpercé par un boulet de canon dans une bataille napoléonienne, ça ne doit pas être très beau à voir. On est d'accord. Mais une bataille napoléonienne, c'est quelque chose qui dure un jour, deux au maximum, trois exceptionnellement, c'est le cas de la bataille de Leipzig. Alors à la fin de la journée, vous avez plusieurs milliers de morts, mais c'est un événement, si j'ose dire, circonscrit. La Première Guerre mondiale, du côté français, entre le 2 août 1914, date de la déclaration de guerre, et le 11 novembre 1918, date de l'armistice, c'est entre 950 et 1000 morts par jour en moyenne, pendant tous les jours. Et la plus grande partie de ces morts, ce ne sont pas des gens qui sont partis à l'assaut contre les tranchées, c'est ceux qui ont été écrabouillés par l'artillerie en étant statiques dans les tranchées. Donc ça, c'est la première différence. Deuxième différence, la littérature de guerre au XIXe siècle est encore très imprégnée de l'idéal épique. Lorsque vous lisez la description de la bataille de Waterloo par Hugo dans Les Misérables, c'est une épopée. Elle est racontée du point de vue de quelqu'un qui voit la bataille d'en haut, qui peut donc situer les masses qui se battent. La charge de cavalerie ici, le régiment de tirailleurs là. Autrement dit, il est capable de voir un ordre, une logique, un plan, un diagramme. Pour les soldats de la guerre de 14, la Kriegserlebnis, l'expérience de guerre, c'est que c'est totalement incompréhensible. Personne ne comprend ce qui se passe. Parce que chacun ne voit que la fumée des obus qui lui tombe devant ou qui lui tombe derrière, court à l'assaut, dans le bruit, la fureur, et n'a aucune idée du plan d'ensemble. D'ailleurs, personne n'a vraiment une idée du plan d'ensemble. L'offensive menée par les Anglais sur la Somme le 1er juillet 1916, c'est 250 000 hommes qui partent à l'assaut. Et la première vague, les 20 000 hommes de la première vague sont tous tués à la fin du jour. Personne ne sait comment et pourquoi. Si, maintenant on le sait. Parce que quand ils sont arrivés en face des tranchées allemandes, l'artillerie qui devait détruire les barbelés et écraser les mitrailleuses n'a rien détruit du tout. Et donc les Allemands ont tiré dans le tas. 20 000 morts en 1h20, à peu près. Hein ? Donc vous voyez, l'expérience de guerre est complètement différente. Donc le récit du combat ne peut pas être comparable. Vous ne pouvez pas du tout raconter la même chose. Et enfin, énorme différence. Victor Hugo n'était pas présent à la bataille de Waterloo. Victor Hugo n'a aucune expérience de guerre. Zola n'a pas combattu en 70. Donc le point de vue littéraire de l'auteur est un point de vue complètement extérieur et imaginaire. C'est une recréation de la guerre fortement influencée par le référentiel épique et par des modèles littéraires. Le roman de guerre de la Première Guerre mondiale ne peut plus fonctionner comme cela. Donc, non, c'est faux, il y a déjà eu de la littérature de guerre. Oui, c'est vrai, c'est une littérature de guerre nouvelle. Parce que la guerre a changé. Et sur quoi va-t-on mettre l'accent ? On va mettre l'accent sur la déshumanisation. Déshumanisation parce que vous êtes des masses de soldats qui s'affrontent et qui reçoivent chacun dans sa tranchée des tonnes d'acier et d'explosifs. Déshumanisation parce que la mort, je mets beaucoup de guillemets, hein, la mort propre, la balle qui vous traverse le corps et vous tombez élégamment sur le sol et vous avez une posture héroïque, c'est terminé. Vous prenez une rafale de mitrailleuse qui vous déchire à peu près tous les organes, vous prenez un obus et vous partez en quartier de corps dans toutes les directions. C'est ça le réel de la guerre. Hein ? Et il en va de même pour les paysages. Lors des batailles napoléoniennes, même lors des batailles de la guerre de 70, les paysages du lieu du combat sont relativement peu affectés. Tandis qu'avec le bombardement incessant de la Première Guerre mondiale, la terre est retournée 1000 fois, tous les bâtiments disparaissent, la végétation est réduite, les troncs d'arbres sont réduits à l'état d'allumettes. Il n'y a plus rien. Vous ne reconnaissez plus rien. Autrement dit, les repères de l'espace disparaissent. Et vous avez remarqué le thème de l'errance, de la perte dans le roman, y compris dans les tranchées. On se perd constamment dans les tranchées. Hein ? Parce que les tranchées, c'est un réseau. Et évidemment, on se déplace surtout la nuit dans les tranchées pour ne pas attirer le feu de l'ennemi. Et donc, sans éclairage, vous êtes dans des boyaux sinueux et vous ne savez pas où vous allez. Il suffit que vous preniez une mauvaise direction, vous pouvez vous retrouver dans les premières lignes allemandes. C'est ce qui arrive à un moment donné dans le roman. Et ils s'en rendent compte parce qu'ils entendent parler allemand. Ils disent, mais
C'est pas vrai. On est chez les Allemands et on s'en est pas rendu compte. Hein, la perte du repère. L'espace n'est plus l'espace. L'espace est devenu indifférencié. Et il est soumis à une sorte de, comment dire, de bouleversement permanent. Vous pensiez vous repérer parce que là, il y avait une espèce de petit monticule. Eh bien, deux minutes après, il a disparu parce qu'un énorme obus est tombé dessus. Vous pensiez vous repérer parce que là, il y avait le cratère d'un gros obus qui était tombé hier. Eh bien, dommage, il y a un autre obus qui va tomber à côté, qui va complètement modifier le cratère. Donc, vous ne savez plus où vous êtes. Hein ? Donc, retenez bien ça. Ça, c'est capital parce que c'est un thème que vous avez chez Barbus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes ici dans les tout premiers romans de guerre. Hein ? Et tous les autres, par la suite, vous allez retrouver ça. Dans Les Croix de Bois, dans La Peur, dans À l'Ouest, rien de nouveau, dans Orage d'acier, dans les ouvrages italiens, un des plus beaux romans italiens qu'on a traduit en français, Les Hommes contre. Hein, il y a eu un film extraordinaire, hein, Les Hommes contre, etc. Vous avez exactement les mêmes descriptions de l'indescriptible. Et vous aurez remarqué qu'il y a très peu de couleurs. Très très peu de couleurs dans le roman. Pourquoi ? Parce que tout est couleur de terre. Tout est pris dans cette grisaille de la terre sans cesse renouvelée, mêlée d'éclats d'acier, d'éclats d'obus. Et même la couleur des uniformes des soldats finit par être délavée sous l'effet de la pluie et ils s'incorporent à la terre même. Et ils pourrissent. Thème annexe de la destruction des corps, c'est la décomposition des corps, que vous retrouverez dans toute la littérature de guerre. On va décrire des charognes, et on va beaucoup insister notamment sur l'odeur. Tous les récits, tous les témoignages des soldats de la Première Guerre mondiale le disent. La guerre, ça pue. Ça pue à cause de l'odeur de décomposition des cadavres, qu'on n'a pas le temps d'enterrer. Et ça tue à cause de l'absence de toilettes. Hein. On va dans ce qu'on appelle les feuillets. Hein. C'est des petits boyaux, des petites tranchées qui sont creusées dans lesquelles vous faites vos besoins naturels. Et ces feuillets, de temps à autre, y a des obus qui tombent dessus, donc ça fait exploser les excréments qui se répandent partout. Et donc, vous vivez en permanence dans une odeur de cadavre, et pardonnez le terme, une odeur de merde. Et c'est un mot que vous retrouvez fréquemment dans le roman. Ça pue la merde ici. Alors, il faut le prendre à la fois au sens littéral, et évidemment, ça prend un sens métaphorique. Hein ? Dans l'expression familière, on est dans la merde. On est également dans quoi ? On est dans la boue. Tous les récits de la Première Guerre mondiale insistent là-dessus. La boue. Et particulièrement dans le feu. Pourquoi ? Parce que le feu rapporte des épisodes de guerre, des campagnes de l'Artois et du Soissonnais. Alors, dans l'Artois, je connais, parce que je suis là-bas, quand vous creusez des tranchées, hein, vous êtes dans la glaise. Et vous arrivez très très vite au niveau de l'eau souterraine. Autrement dit, vous avez constamment les pieds dans l'eau. C'est pas comme les tranchées en Champagne qui, là, étaient creusées dans la craie. Donc là, c'était plus solide, il y avait moins de flotte. Mais dans l'Artois, pire dans les Flandres, hein, là où étaient les troupes anglaises, Passchendaele en particulier, c'est la boue universelle. Hein. Les soldats anglais le racontent. Hein, lors de la bataille d'Ypres ou de la bataille de Passchendaele, ils ne peuvent plus avancer. Ils ne peuvent plus, ils peuvent pas soulever un pied. Parce qu'ils sont dans une boue qui d'ailleurs ressemble un peu à des, comment dire, à des sables mouvants. C'est-à-dire, en fait, que si vous bougez, vous êtes englouti. Voilà pourquoi vous avez cette importance de la boue. Mais vous voyez bien que les excréments, la décomposition, la boue, ça vaut aussi métaphoriquement pour qualifier la guerre, pour qualifier l'expérience de guerre. Hein ? Autre élément thématique, c'est évidemment le bruit atroce de tonnerre permanent, avec les bombardements d'artillerie, puisqu'on bombarde en permanence. La guerre de 14, c'est d'abord l'échange de millions d'obus. Je dis bien de millions d'obus. Hein, de dizaines de millions d'obus qui ont été déversés sur l'espace des tranchées, devant et derrière. On tire de jour, on tire de nuit. La seule différence, c'est l'intensité du tir. Le tir est beaucoup plus important lorsqu'on fait ce qu'on appelle une préparation d'artillerie avant l'attaque. Et là, c'est un bruit absolu qui rend fou. Vous savez que beaucoup de soldats sont devenus fous à cause du bruit, à cause de l'explosion permanente. Donc, thème que vous retrouverez dans toute la littérature de guerre. Hein, et dont le titre d'un des grands textes de la littérature allemande sur la guerre, de Ernst Jünger, hein, Orage, en français « Orage d'acier », traduit bien cela. Hein. Autrement dit, la description de la guerre et du lieu de la guerre se décline en thèmes obsédants que vous retrouvez d'un chapitre à l'autre. Et cette obsession thématique est évidemment comme, si vous voulez, la, je dirais, le retour permanent de l'image de guerre pour le lecteur. Et c'est le but de Barbus. Hein ? Vous mettre, vous, en tant que lecteur, devant cela. Or, bien entendu, cela va faire l'objet de tout un ensemble de procédés de littérarisation. Les images, la métaphore, une sorte de dimension poétique de ces descriptions. Parce que l'horreur, ça se poétise aussi. Hein ? Pour mieux frapper l'imagination. On a reproché à beaucoup de ces romans de guerre de poétiser. Ben, il faut prendre le problème à l'envers. Poétiser, c'est justement frapper l'imagination. Parce que si on aligne de simples notations, hein, à 15h09, on a entendu exploser 10 obus à la fois, à 15h10, on en a entendu 15, etc., ça devient illisible. Tandis que si on vous décrit ce martèlement permanent, si on vous fait imaginer ce que c'est que d'avoir les oreilles constamment bourdonnantes, à cause du bruit des obus, de recevoir en permanence des gerbes de terre, de cailloux, des éclats d'obus, etc., de se terrer, de s'enfoncer le plus possible dans la terre pour ne pas prendre les éclats d'obus. Ça vous donne une idée un peu plus précise. Hein ? La description au ras du sol est beaucoup moins efficace que la littérarisation. Donc on ne peut pas reprocher aux écrivains de guerre, je mets des guillemets, de faire du roman. Ils ne font pas du roman pour idéaliser. Ils font du roman pour mieux montrer. Hein ? C'est-à-dire que vous êtes très très précisément ici dans la continuité du naturalisme, et du réalisme et du naturalisme. Montrer pour faire comprendre. Et pour montrer, eh bien, il faut décrire. Et vous ne décrivez bien que si vous avez bien analysé. Donc Barbus est l'héritier de toute une tradition d'écriture du XIXe siècle. Donc voilà pour quelques-uns des thèmes liés à la guerre. Autre série de thèmes, la vie du soldat. De quoi est faite la vie du soldat ? De deux choses permanentes. L'expérience de la mort qui frappe autour de vous, et la mort dont vous vous dites ben, « c'est peut-être pour moi aujourd'hui ». Ce qui implique que vous vivez au jour le jour. Non, vous vivez heure par heure. D'où une scansion du temps qui est tout à fait passionnante dans le roman. Pour les soldats, quelle est la première chose qui compte ? Bon, on sait qu'on va passer 3 jours dans les tranchées. Vivement le 3e jour pour la relève. Et quand arrive le 3e jour et qu'on n'est pas mort, eh bien, d'une certaine façon, on peut sourire, on peut rire. J'y ai encore échappé cette fois. Hein ? Il y a le spectacle de la mort, mais il y a aussi la peur de la mort. D'où le titre du roman de Gabriel Chevallier, La peur. Hein ? Le héros du roman dit « j'ai eu peur tous les jours, j'ai eu peur à chaque heure, à chaque minute de chaque jour. » Et le miracle, c'est de se dire « mais avec une peur pareille, comment est-ce qu'on tient ?» Hein ? Donc ça, c'est la première expérience. Et la deuxième, c'est la nourriture. Quand est-ce qu'on mange ? Quand est-ce que la soupe va arriver ? Alors ça a l'air très terre à terre, mais c'est fondamental. Parce que si la soupe n'arrive pas, ça veut dire que vous n'allez rien avoir pendant une journée, voire pendant deux jours, et que pendant ce temps-là, vous prenez des obus sur la figure. Autrement dit, la nourriture, c'est une obsession du soldat. Vous avez un épisode comme ça dans le Voyage au bout de la nuit qui est extraordinaire, hein, où le narrateur fictif, hein, Ferdinand Bardamu, raconte que bon, il y a les soldats qui sont allés chercher la nourriture, hein, c'était organisé tout cela, il y avait les équipes qui allaient chercher le ravitaillement et qui ramenaient le ravitaillement. Ça prenait des heures parce que les cuisines roulantes, elles étaient loin derrière, donc il fallait traverser les lignes. Et il fallait revenir à l'emplacement où se trouvaient les soldats, à travers les boyaux, à travers les tranchées, sous le bombardement. Alors imaginez, vous avez 20 à 25 pains sur vous, vous avez plusieurs bidons de soupe, les bidons de café, etc. Vous êtes chargé comme une mule. Et vous devez circuler dans les boyaux et dans les tranchées, en risquant à chaque fois de vous prendre un obus sur la tête. Ce n'est pas du tout une occupation de tourpeau, hein. C'était une corvée. Bon, et donc, il raconte cet épisode que le soldat qui a été chargé pour l'escouade d'aller chercher le pain, la soupe, etc., il arrive, il n'a plus rien. Il dit, ben voilà, j'ai tout perdu, il y a eu un bombardement, j'ai tout lâché, et lorsque je me suis relevé, j'ai rien retrouvé parce que les obus ont recouvert le boyau dans lequel j'étais. Donc il arrive, et la seule question qu'on lui pose, ben, et le pain, où est-ce qu'il est ? On ne s'intéresse pas à savoir s'il a eu la trouille, on ne se demande pas de dire, bon, t'as échappé à la mort, et le pain. Vous voyez ? L'obsession de la nourriture, cette préoccupation de tous les jours. Donc, la mort et la nourriture, c'est ça qui constitue l'ordinaire du soldat. Hein, vous connaissez le sens du mot ordinaire. L'ordinaire, c'est ce qu'on mange tous les jours, c'est ce qu'on a de manière récurrente. Si j'ose dire, c'est le pain quotidien. Ben, le pain quotidien, c'est le pain qu'on reçoit ou qu'on ne reçoit pas, et c'est la mort. Alors je parle de pain quotidien, ben, je vais continuer la métaphore religieuse. Il y a la communion fraternelle. Ce qui vient en quelque sorte compenser tout cela. C'est le groupe, l'amitié, la solidarité. Pourquoi ? Ben, parce que pour essayer de survivre, on ne peut pas se contenter de se replier sur soi et puis d'attendre que ça se passe. On sait que les autres vivent exactement la même chose. À partir du moment où vous vivez exactement la même chose, il se crée cette communauté et donc cette communion des soldats. Donc le texte de Barbus met ça en avant. Et c'est aussi une raison pour laquelle le choix de l'escouade comme groupe de personnages, est tout à fait pertinent. Ça n'aurait pas du tout, je dirais, le même impact, ça n'aurait pas la même structure, ça n'aurait pas la même portée. Si c'était, je ne sais pas, moi, le journal d'un régiment ou d'une division, parce que vous seriez évidemment obligé de prendre un point de vue complètement différent. Tandis que là, le narrateur est au milieu d'un petit groupe et il individualise chacun des membres du groupe. Il y a le paysan du Midi, il y a le petit artisan de Paris, etc. Et quel est leur point commun, mis à part le caporal Bertrand, et puis évidemment le narrateur ? Ce sont des hommes du peuple. Et c'est là qu'on rejoint la question de la littérature réaliste, du naturalisme et du populisme. Hein ? Car quelle a été l'une des grandes directions du roman français au XIXe siècle, à partir du milieu, à partir des années 50-60 ? 1850, veux-je dire. Hein ? Ça a été la... Comment dire ? Comment est-ce qu'on va mettre le peuple en littérature ? Comment est-ce... Quel type de personnage individuel ou de personnage collectif on va essayer de mettre en place ? Parce qu'évidemment, le roman en tant que genre littéraire au XIXe siècle, il entre dans le processus général de démocratisation. Le roman, c'est le genre démocratique par excellence. Il est démocratique littérairement parce que c'est un genre qui échappe aux préceptes, aux règles, aux dogmes de la littérature établie. Le roman est un genre libre. Étant un genre libre, il est capable de tout mettre en scène, il est capable de tout dire, il est capable de tout montrer. S'il est capable de tout dire, de tout montrer, il doit également pouvoir, eh bien, accorder toute sa place à ce qui constitue la majorité d'une nation, c'est-à-dire le peuple. Et sous sa double composante majeure, le peuple paysan, qui est le peuple majoritaire, hein, dans la France de 1914, comme au XIXe siècle, et le peuple ouvrier. Petite question, peut-être que vous savez ça, il doit y avoir des gens qui ont fait des études d'histoire assez poussées. À partir de quand la population française est-elle devenue majoritairement urbaine ? C'est-à-dire qu'il y a eu plus de gens habitant dans les villes que dans les campagnes. Non ? C'est après la Première Guerre mondiale. C'est dans les années 1920. Ce qui est différent de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et en Allemagne, où cette inversion du rapport population urbaine-population rurale s'est faite beaucoup plus tôt en Grande-Bretagne et en Allemagne. Hein, et on donne ça comme un des critères qui permettent d'évaluer le retard français par rapport à l'industrialisation en Europe occidentale. Bon. Donc le peuple majoritaire dans la France de 1914 est un peuple paysan, et un peuple paysan de petites propriétés rurales. Et c'est ce peuple paysan qui a payé le plus lourd tribut à la guerre. Et ça ne jouera pas un rôle négligeable dans la transformation de la propriété rurale entre les deux guerres. Hein, parce que vous avez beaucoup de petites exploitations agricoles qui vont disparaître parce que le fermier est mort, tout simplement. Hein. Bien, je ferme la parenthèse. Donc, je reviens à ma question du roman comme genre démocratique et de la représentation du peuple. Eh bien, cela se fait très très progressivement. Une étape majeure, c'est Zola, avec dans les Rougon-Macquart des romans comme L'Assommoir, Le peuple parisien, Germinal, Le peuple mineur, mineur au sens des mineurs de fond, hein, pas mineur au sens de l'âge ou de la mentalité. Hein. Et un roman qui s'intitule La Terre dans les Rougon-Macquart, qui est le roman rural, le roman paysan d'Émile Zola. Hein. Et autre question, évidemment, à partir du moment où vous introduisez le peuple dans la littérature, comment allez-vous le faire parler ? Et nous rejoignons la question qui était celle qu'on posait tout à l'heure à propos de l'argot. Hein ? C'est ce que vous avez, ce que vous avez dans, par exemple, quelques romans de Balzac, hein, où on fait parler argot, un argot très particulier à certains personnages, mais ce n'est pas l'argot populaire, c'est l'argot de la pègre de l'époque, hein, de la bande à Vautrin, etc. Et dans Les Misérables, c'est la même chose. Ça va être l'argot des bas-fonds, l'argot de la pègre. Ça ne sera pas encore l'argot, entendez la langue populaire de la rue. Ça, vous commencerez à la trouver chez Zola. Vous la trouverez chez L'Assommoir, mais à dose homéopathique. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les écrivains se disent « mais je ne peux pas continuer à faire parler mes personnages comme ça. » Parce que là, je vais avoir une sorte de, comment dire, de décrochage de littérarité. Donc il faut que je fasse vrai. Donc, de temps à autre, je fais parler mes personnages comme ils parlent dans la rue, mais je ne peux pas le faire trop. Donc, vous voyez tous les débats qui se posent autour de la représentation romanesque des personnages populaires. Parce que ça pose un problème de style, pose un problème d'écriture. Alors, vous voyez comment Barbus, lui, l'a résolu avec ses soldats. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, je termine là-dessus. Le feu de Barbus s'inscrit dans l'évolution démocratique du genre romanesque, avec cette accentuation particulière qui est celle, évidemment, de la représentation de la guerre, et propose la quasi-totalité, que je n'ai pas tous énumérés, mais vous les trouverez, hein, j'ai vu ça dans les ouvrages critiques là, qui sont en train de sortir autour de votre programme, hein, vous propose une sorte de répertoire des thèmes majeurs du roman de guerre que vous trouverez à peu près partout par la suite. Alors, petite parenthèse, hein, je vous disais qu'il y a énormément de romans de guerre, et à l'époque contemporaine, depuis les années 1980, il y a une très forte résurgence du roman de la Première Guerre mondiale dans la littérature romanesque française, mais pas seulement, c'est vrai aux États-Unis, plus en Angleterre, beaucoup moins en Allemagne. Les Allemands ne commémorent pas trop la Première Guerre mondiale. Mais alors, les trois tendances principales du roman contemporain, c'est la guerre vue du point de vue des femmes, autrement dit, la Kriegserlebnis féminine. Qu'est-ce que c'est que d'être la femme qui attend le retour du fiancé ou du mari, du frère, du père? Qu'est-ce que c'est que la femme qui est obligée de travailler et de tout faire à la place des hommes? Hein? Ça, vous l'avez très très peu dans les romans de l'époque, de la Première Guerre mondiale. Hein? Maintenant, oui. C'est le roman de la mémoire, autrement dit, comment est-ce qu'on peut maintenir la mémoire de la guerre par le roman? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut mémoriser par la littérature? Et la troisième tendance, c'est la guerre, la Première Guerre mondiale, réinterprétée comme la plus monstrueuse absurdité qui ait jamais été. Alors ça se discute historiquement, peu importe, c'est pas ça qui m'intéresse. Hein, mais l'idée que ce que la Première Guerre mondiale fonde le XXe siècle, et qu'à partir de là, il y a eu une croissance exponentielle de l'horreur. Autrement dit, la première guerre mondiale comme naissance de la monstruosité dans l'histoire. Hein, voilà les trois, je veux dire, c'est pas les seuls, hein, mais les trois pôles majeurs du roman de guerre contemporain en France. Autrement dit, une triple relecture. Du point de vue d'une catégorie de la population, les femmes, du point de vue de la mémoire, du point de vue de la relecture idéologique. Avez-vous des questions? Oui? Ah, la question de la religion. Alors, la question de la religion dans le feu, elle est extrêmement délicate. Parce que le roman se situe à une époque où les références religieuses, où la culture religieuse imprègne très profondément la société française. Et, du coup, le roman va poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire que cette guerre dans laquelle un camp dit « Dieu est avec nous » et l'autre camp dit « Gott mit uns ». Est-ce que Dieu peut être à la fois français et allemand? Est-ce que Dieu est partisan? Et deuxième question, est-ce que Dieu, s'il existe, peut permettre ça? Autrement dit, montrer en quoi il y a un ébranlement de la foi religieuse du fait de cette expérience inédite et abominable que subissent les soldats. Est-ce pour autant que le feu en tant qu'œuvre littéraire est une œuvre anti-religieuse ou une œuvre qui met la religion à distance? Je répondrai en bottant en touche et en disant que il y a la substitution dans le roman de la religion traditionnelle par la religion humaniste. Autrement dit, une sorte de retour à l'étymologie de religion. Hein, alors, on ne sait pas si c'est religere ou religare en latin, il y a deux écoles là-dessus, mais en tout cas, réunir, relier, rassembler. Et est-ce que, du coup, la guerre et cette expérience commune, que ce soit la Kriegserlebnis des Allemands ou l'expérience de guerre des Français, est-ce que ce ne sera pas le moyen de réunir les hommes? Parce qu'ils auront été tous dans cette même abomination. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle fraternité qui va apparaître? Et c'est un des sens de la fin du roman. J'aurais tendance à vous répondre comme ça. Hein, plutôt que d'essayer de dire, est-ce que le roman est imprégné de valeurs religieuses? Il est imprégné de références religieuses, mais ça c'est tout à fait normal, parce que ça correspond à l'époque. Hein, quand vous regardez, quand vous lisez beaucoup de récits, moi j'ai lu beaucoup de récits de soldats de la guerre, qui ne se présentent pas comme des œuvres littéraires. Mais il y a toujours forcément un peu de littérarisation. Dès lors que vous écrivez deux phrases, vous êtes déjà dans la littérature, que vous le vouliez ou non. Hein. Mais quoi qu'il en soit, dans beaucoup de ces récits, vous avez cet attachement à la religion qui, pour un grand nombre de soldats, leur a permis de tenir. Hein. Et vous avez aussi le questionnement. Donc, il n'est pas surprenant, si vous voulez, que le feu traduise et mette en texte cette référence à la religion, parce qu'elle est conforme à ce qu'était l'esprit du temps. Aujourd'hui, on n'écrirait plus du tout comme ça. Il n'y aurait plus cette même présence de la religion. Elle pourrait bien entendu être là, mais on n'aurait pas ce sentiment du discours religieux sous-jacent, pardonnez-moi, ou explicite dans le texte. D'autres questions ?
Gérard, moi j'ai une question.
Oui ?
Vous avez parlé en fait de la légitimité de la littéralisation, du réel.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans la surabondance descriptive, en fait un double risque, d'abord celui paradoxalement d'une forme de déréalisation, ça paraît plus vrai, ça paraît plus réel. Et deuxième risque, au contraire, une espèce de surabondance d'horreur telle qu'il y a une réaction de rejet de la part du lecteur.
Ce sont de vraies questions, effectivement. Chacun des textes qui constituent le corpus idéal du roman de guerre vont présenter des problèmes analogues. Puisque, en effet, la question reste posée. Comment écrire l'indicible ? C'est une question qui se posera 40 ans après, avec les camps, avec l'expérience des camps. Hein ? C'est la fameuse question qu'a posée Adorno. Hein ? Est-ce qu'on peut encore écrire après Auschwitz ? Alors, je dirais d'une certaine façon que les écrivains de la Première Guerre mondiale se posent, mutatis mutandis, une question analogue. Peut-on écrire après ça ? Donc, effectivement, il va y avoir une tendance qui va être celle de la prise en charge massive par les procédures de métaphorisation ou de la description de la guerre, parce que, comme elle est littéralement indescriptible, il faut essayer quand même de la dire. D'où effectivement ce risque, incontestable. Le risque de rejet est également présent. Mais, d'un autre côté, comment faire autrement ? Comment écrire la guerre autrement ? La seule réponse alternative qui a été apportée, à ma connaissance, hein, je ne dis pas que c'est la seule, mais la seule que je connaisse, ou en tout cas celle qui me paraît la plus efficace, ça va être celle de la dérision. C'est-à-dire traiter la guerre en comédie noire, en comédie sinistre. Alors, je vous donne deux exemples. L'un par le titre. C'est le recueil de nouvelles de Drieux-La Rochelle, La comédie de Charleroi, que je vous recommande. Et vous voyez comment le titre indique que la guerre peut être regardée comme une sorte de sinistre comédie. Et l'autre, alors c'est un roman que j'espère vous avez lu, mais si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument vous précipiter. Hein. C'est une des œuvres fondatrices de la littérature du XXe siècle. C'est le romancier tchèque Hajek, Le brave soldat Švejk. Ah, il faut lire ça. Hein ? Le brave soldat Švejk, donc c'est un soldat de l'armée austro-hongroise qui joue en permanence au naïf, hein, à l'imbécile, qu'il n'est évidemment pas, qui se trouve embarqué dans la guerre et qui va tout regarder de ce point de vue faussement naïf et montrer que tout ça est d'une absurdité. D'un comique, on ne peut pas y croire un instant, sauf que si, on y croit parce qu'on se fait tuer. Donc vous voyez, là, le point de vue est radicalement opposé. Barbus, Junger, Chevalier, et même Céline, d'une certaine façon, prennent la guerre au sérieux. Céline va en faire l'expérience traumatique initiale pour son héros. Et en disant, oui, la seule chose qu'il fallait faire de cette guerre, c'était foutre le camp. Hein ? Je me suis laissé embarquer là-dedans, mais on ne peut pas tenir. Hein ? Mais c'est quand même prendre la guerre au sérieux. C'est traité sur le mode d'une ironie dévastatrice, mais elle est prise au sérieux. Avec Hašek, on prononce Hašek, hein, H-A, et c'est le S avec un accent circonflexe retourné, donc c'est Hašek. Enfin, Hašek. Mais ma prononciation du tchèque n'est pas très fiable. Hein. Le Braslov d'Hašek traite la guerre comme une espèce de roman de l'absurde. Et c'est très drôle, en plus. Vous vous prenez à rire, alors que ce dont il parle est atroce. Donc je crois que c'est une réponse littéraire possible à ce que tu soulèves, tu vois. Je te tutoie depuis le temps qu'on se connaît. Donc j'aurais tendance à dire ça. Hein. Alors, aujourd'hui, dans la littérature contemporaine, je dirais qu'il y a une autre forme de prendre la Première Guerre mondiale par la marge, enfin par la marge, entendons-nous, par ces formes de littérature qui, il n'y a pas si longtemps, étaient appelées la paralittérature, c'est-à-dire le roman d'espionnage et le roman policier. Et vous avez beaucoup de romans policiers qui placent des intrigues policières, pour le coup, dans le cadre très précis de la Première Guerre mondiale. Hein ? Et qui sont remarquables. Parce que, d'abord, ils sont très informés historiquement, mais vous voyez, on prend la guerre par le biais du roman policier. Autrement dit, pas par le biais de la description insoutenable de l'insoutenable. Et alors l'autre tentative très très contemporaine, et je vous le disais en ouverture, qui donne des résultats à mon avis extraordinaires pour les meilleures d'entre elles, c'est les bandes dessinées. Il y a des bandes dessinées sur la Première Guerre mondiale qui sont excellentes, qui valent largement bien des œuvres littéraires de deuxième ordre. Autre question ? Oui ?
Vous n'avez pas évoqué le cinéma.
Alors, je n'ai pas évoqué le cinéma. Alors, d'abord, on pourrait évidemment l'évoquer parce qu'une grande partie des grands films sur la Première Guerre qui ont été réalisés à la fin des années 20 et dans les années 30 ont été des adaptations de romans. Les Croix de Bois a été adapté au cinéma. À l'Ouest, rien de nouveau a été adapté au cinéma, en particulier. Autrement dit, c'est le scénario du film transcrit le texte littéraire. Hein ? Il y aura relativement peu de films de guerre entre les deux guerres, mettant en scène la Première Guerre, qui seront des œuvres, je dirais, de scénario original. C'est-à-dire qui écrivent un script pour le film, ne s'appuient pas sur une œuvre littéraire. J'en connais un, c'est un film assez rare, de Léon Poirier, ça ne vous dit pas grand-chose, Léon Poirier, c'est Verdun, Vision d'Histoire. Et Verdun, Vision d'Histoire est un film qui est entièrement gouverné par l'épique. Hein, c'est l'épopée de la bataille de Verdun. Donc c'est une sorte, si vous voulez, de vision, si j'ose dire, hugolienne et zolienne de la bataille de Verdun. Hein. En revanche, le cinéma plus proche de nous, lui, va privilégier des adaptations de romans qui sont des romans critiques ou des romans contre la guerre. Par exemple, Les Sentiers de la Gloire, hein, qui est l'adaptation d'un roman américain dont le titre est Path of Glory, donc Les Sentiers de la Gloire. Ou par exemple, Johnny Got His Gun, hein, Johnny s'en va en guerre, adaptation d'un roman américain de Dalton Trumbo, etc., etc. Autrement dit, si le cinéma des années 20 et 30 reste très proche de l'esprit des romans de guerre des années 20, plus tard, le cinéma qui met en scène la Première Guerre mondiale va là encore s'appuyer sur des romans, mais va prendre un point de vue là critique et dénonciateur. Alors le cinéma de la Première Guerre mondiale mérite à lui seul très largement une conférence. C'est très très riche. D'autant qu'il y a des films contemporains, alors des films contemporains pas simplement en France, mais aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, je vous recommande le film Gallipoli, film australien, sur la bataille de Gallipoli, où les Australiens se sont fait laminer lors du débarquement de Gallipoli, etc. etc. Vous avez une très très grande richesse cinématographique dans le traitement de la Première Guerre mondiale. D'autres questions ? Oui ? Non ? Mais écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère vous avoir été un peu utile.